Ça va bientôt faire 17 ans que je suis pasteur. Ça doit être à peu près la 15e fois que je prêche sur ce texte. Et c'est la 15e fois que je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de plus ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de nouveau ? Qu'est-ce qui va bien pouvoir aussi, moi, me stimuler dans la préparation de cette prédication ? Et surtout, qu'est-ce qui va pouvoir vous stimuler, vous ? Qui écoutez des prédications sur cette entrée de Jésus à Jérusalem depuis des années. Qu'est-ce qui va nous stimuler ensemble et faire en sorte aussi que, je l'espère, nous allons quitter ce lieu, ce midi, transformés. Avoir peut-être une envie de dépasser certains blocages, certaines limites spirituelles et vraiment, finalement, vivre quelque chose de différents dans nos vies. Alors, je le sais, ça peut vous paraître particulièrement ambitieux comme projet, mais c'est vraiment ce que l'Esprit a mis sur mon cœur au moment de préparer cette prédication et au moment de la donner devant vous tous et vous toutes. Je l'ai dit, ça fait un certain temps que je prêche sur ce texte. Je me suis déjà attaché à parler de l'âne. C'est vrai. De Jésus, des disciples, des foules. J'ai même parlé des pierres qui crieront, sans jamais finalement m'arrêter sur quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais qui est important aussi, sur moi. En quoi est-ce que cette histoire me concerne ? Le peuple juif, il attendait son Messie et l'entrée de Jésus à Jérusalem paraît bien satisfaire l'espérance toute humaine de la foule des disciples. Mais on sait maintenant, par des siècles de théologie, par l'étude, que l'entrée de Jésus dans la Jérusalem terrestre annonce en réalité sa venue en gloire dans la Jérusalem céleste et le chemin qui y mène, il passe par l'événement que nous célébrerons vendredi soir, la croix. L'entrée de Jésus à Jérusalem et la foule qui l'acclame comme son roi, comme son Seigneur, annonce en réalité sa glorification auprès de Dieu, son entrée dans la Jérusalem céleste, au-delà, la nouvelle création de Dieu, la parousie, comme on dit, où, nous est-il dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On le sait tout ça. Ça aurait été facile pour moi de creuser encore un petit peu et d'approfondir cette dimension de la seigneurie de Christ. Parce que oui, l'entrée de Jésus à Jérusalem, ça signifie aussi le commencement de ses souffrances. On commence aujourd'hui cette semaine sainte, sa marche silencieuse vers la croix, dans son obéissance, une obéissance totale au Père. La royauté de Christ passe par la croix. Jésus n'est le Seigneur de l'Église, du monde, que parce qu'il est le Sauveur, le Libérateur, celui qui a vaincu la mort et qui a pris sur lui la condamnation qui pesait sur nous, pécheurs, condamnation qui nous portait, fermait la porte du ciel. On met Jésus, souvent, et on le dit, mais on oublie le pourquoi il est ce Seigneur. C'est pour tout ce qu'il va faire cette semaine, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il est sauveur, et parce qu'il est pour nous, c'est parce qu'il est tout cela qu'il est pour nous aujourd'hui, notre Seigneur. La royauté de Jésus n'est ni plus ni moins que la manifestation, l'irruption finalement, du salut, du sauvetage de Dieu dans le monde, dans notre histoire, et je l'espère aussi, dans nos propres vies, dans nos propres cœurs. La royauté de Jésus, c'est Dieu avec nous, en la personne de Jésus-Christ, Emmanuel, celui qui vient pour nous révéler le Père et nous soumettre à sa volonté d'amour. Et la foule, on sait, je ne vais faire aucun spoiler, ne comprendra pas tout ça. C'est pourquoi le jour des rameaux fera bientôt place au vendredi saint, c'est pour ça que les Hosanna, gloire au Seigneur dans les lieux très hauts, laissera place au « crucifie-le ». Fallait bien se débarrasser de lui puisqu'il avait déçu nos espérances, les espérances trompeuses de la foule. Jésus n'était pas le héros que le peuple attendait. Jésus a fait de Dieu le Père et de son plan pour lui sa priorité. On n'y pense pas souvent, hein ? On a chanté « Soumettre à la volonté de Dieu » dans un des chants. Pleinement homme, pleinement Dieu, sans péché. Mais Jésus aurait pu se dire ouais, « Je suis un héros », comme on peut se le dire parfois peut-être. Mais Jésus se soumet au Père, à son plan pour lui, et c'est de ça qu'il fait sa priorité. Mais vous le savez aussi, parce que vous êtes bien enseigné à Pessac depuis bien des années. On sait aussi, et on appuie souvent hein, pour afficher notre humilité, on la connaît cette phrase de Jésus, du Seigneur à Gethsémané, qui dit « Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur ». Oui, on sait que la seigneurie de Dieu dépasse toute chose dans la vie terrestre du Christ. Alors, je pourrais terminer maintenant, peut-être que vous seriez content, en disant « Et nous, où en est la seigneurie de Dieu dans notre vie ? Est-ce qu'on se laisse aller ou est-ce qu'on va jusqu'au bout du plan de Dieu pour nous ?» J'aurais pu broder autour de tout ça. Et puis, l'Esprit a travaillé mon cœur et il m'a titillé. Il m'a dit, allez Jérémie, sors un peu de ta facilité, sors de ce que tu sais de ce texte-là. Qu'est-ce qu'il te dit à toi ? En quoi est-ce qu'il est précieux pour toi ? Mais concrètement, en quoi est-il pertinent et décisif pour ta vie encore aujourd'hui ? Ça fait beaucoup de questions, hein. Ça fait beaucoup de questions qui ont trouvé leur réponse dans cette courte réponse de Jésus au verset 3, alors qu'il envoie deux disciples emprunter un âne au village. Le Seigneur en a besoin. Pourquoi Jésus a-t-il besoin d'un âne ? Pour accomplir la prophétie connue de tout le peuple, celle de Zacharie 9, verset 9, « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Mais franchement, Jésus aurait pu faire venir tout seul cet ânon à lui. Il aurait pu passer par le village simplement et prendre l'âne au passage. Et pourtant, Jésus envoie deux disciples détacher un âne au vu et au su de ses propriétaires, selon l'évangile de Luc, et devant des témoins, ici. Coucou, c'est nous. On embarque votre âne, hein ? Vous savez, cet animal dont vous avez vraiment besoin tous les jours pour accomplir votre besogne quotidienne. C'est le premier point qui est illustré par ce tout petit épisode. C'est sans doute pas le plus important hein, du texte. Mais oui, Jésus aurait tout à fait pu se débrouiller tout seul. Mais il donne une responsabilité à deux de ses disciples. Non seulement j'ai besoin de cet âne, mais j'ai besoin de vous pour aller le chercher. Je ne passerai pas devant pour me servir simplement. Je ne vais pas le faire apparaître comme par magie. Je ne vais pas moi-même, avec la célébrité qui est la mienne aujourd'hui, en ce moment, aller discuter avec les propriétaires. Non, j'ai besoin à vous de votre courage et de votre détermination. Allez détacher cette âne, et amenez-le-moi. Je ne sais pas si c'est un propre souvent des pasteurs, mais des fois on n'aime pas trop demander des choses. Ça nous gêne un peu. Même des fois pour des choses où vraiment on devrait demander. Je ne sais pas si vous, vous imaginez, moi je ne m'imagine pas du tout aller chez quelqu'un comme ça, je ne sais pas si votre voisin avait un âne, aller lui dire « excuse-moi, je t'emprunte ton âne », quoi, sans rien dire de plus. Ce n'est pas quelque chose qui m'est naturel. Cette parole, elle m'a transpercé. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ses disciples. Ça nous paraît fou quand même. Comment le Seigneur, Christ, parole faite chair, Dieu, peut avoir besoin de nous ? Et il en est question, finalement, dans ces quelques mots. Le Seigneur en a besoin. Alors, c'est une question un peu plus profonde, Église de Pessac, que je vous pose, mais est-ce que vous avez confiance que le Seigneur a besoin de vous ? Est-ce que chacun et chacune d'entre vous, dans votre vie, vous vous dites quelquefois, c'est bizarre hein, qu'il utilise « le Seigneur en a besoin », parce que le Seigneur a besoin de rien, enfin Dieu a besoin de rien. Et pourtant, nous, Église, aujourd'hui, avons-nous conscience que le Seigneur a besoin de nous, a besoin de moi ? On ne pense pas souvent au fait que quand Jésus était dans son ministère terrestre sur la terre, il était là, dans un lieu, dans une culture, dans quelque chose. Il faisait une chose à la fois qui était là. Aujourd'hui, nous qui sommes corps de Christ, nous sommes cette représentation de Christ partout où nous sommes, dans chaque lieu que nous foulons, avec nos mains, avec nos pieds, avec tout ce que nous avons, l'amour que nous avons à transmettre. Vous vous rendez compte de l'impact que l'on peut avoir ? Alors, j'ai relu cette semaine des statistiques qui disaient que 84% de la population mondiale est religieuse, pas chrétienne, religieuse, 84%. Et sur ces 84%, 36% sont chrétiens, encore le plus grand nombre pour l'instant. Vous vous rendez compte, 84% de la population mondiale croit qu'il existe un ou des dieux. Pas mal. On a le même type d'expérience que 84% de la population mondiale. Du coup, comment se fait-il que nous nous sentions si souvent, si seuls ? Pourquoi est-ce qu'on se sent si souvent tellement minoritaire en tant que personne qui croit ? Parfois, je n'y vois qu'une raison. Le Seigneur a besoin de nous. Incroyable ! Je le redis, le Seigneur n'a besoin de rien, et pourtant il le dit là, j'ai besoin de vous. Mais nous, pas vraiment. Est-ce que des fois on ne se dit pas ça ? Imaginez Jésus qui dit, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entré, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté, détachez-le et amenez-le. Et les disciples qui répondent, non, pas envie, trop galère. Puis franchement, tu n'as pas vraiment besoin de nous pour ça. Maintenant, transposez. Allez, faites donc toutes les nations des disciples. Pas envie. Puis, depuis Calvin, on sait que tu n'as pas vraiment besoin de nous pour ça. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de nous. Incroyable, mais je le répète, c'est une réalité. Et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Alors, peut-être dans ce dimanche de la mission aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie de répondre à cet appel ? Ou est-ce qu'on a envie de faire « non, c'est bon, pas pour moi, je passe ». Il ne s'agit pas d'activisme, mais de témoignage. Il ne s'agit pas de miracle extraordinaire, mais de présence humble, simple, vivante. Il ne s'agit pas forcément d'aller au bout du monde, même si certains le font, mais de commencer déjà là où je suis. Peut-être même des fois commencer simplement dans la communauté qui est là, dans ma famille, auprès de mes amis. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, d'enfiler un masque, mais d'une prise de conscience. Ouais, le Seigneur peut m'utiliser tel que je suis. Il n'a pas honte de moi. Il ne s'agit pas de grandeur, Être disciple du Christ, c'est lui ouvrir toute ma vie. C'est me soumettre à lui et le servir lui ainsi que sa mission, quel qu'en soit le prix. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'aimer. Voilà notre mission. Vous savez, je suis un petit pasteur dans une petite église. Je n'ai pas beaucoup de followers sur Instagram, sur Twitter, et je ne suis vraiment pas sûr, je ne pense pas du tout. Je pense que je ne laisserai aucune trace dans la grande lignée des témoins qui rempliront les livres d'histoire de la religion chrétienne. Mais je sais que le Seigneur a besoin de moi. Pourquoi ? Eh bien, aussi parce qu'entre nous, même si ça peut être compliqué, Jésus a besoin de ses deux disciples pour aller chercher un âne dans un village. Alors, laissez-moi vous poser une question. J'avais presque envie de vous demander de fermer les yeux et puis de lever la main, mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Qui ici pense que Jésus n'a pas besoin de lui ? Répondez-y dans votre cœur et répondez-y honnêtement. C'est sans doute une des premières raisons pour lesquelles on se sent si seul, parfois. Peut-être que je déprime et je me dis, bon, de toute façon, le Seigneur n'a pas besoin de moi, personne n'a besoin de moi. Peut-être qu'il y en a même certains qui se disent, cette église où je viens tous les dimanches, elle n'a pas vraiment besoin de moi. La Bible nous apprend que le Seigneur n'a pas de classe de disciples, hein, ceux qui consacreraient leur vie à son service et ceux qui n'auraient pas à le faire. L'appel est le même pour tous les disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Journée de la mission. Visite synodale. J'ai une casquette, c'est membre de l'ACS aussi. Je suis pasteur, membre de la commission synodale. Et il se trouve aussi que je suis le lien entre la commission synodale et le pôle développement, ce vilain mot de notre union. Et on parle souvent de croissance d'église. Mais il est intéressant de remarquer que la croissance d'une église dans le Nouveau Testament, et là le conseil va sourire ce matin parce qu'ils ont eu le même discours que je vais avoir ce matin, mais hier entre eux. La croissance d'une église dans le Nouveau Testament ne porte pas sur la structure, nombre de membres, finances, succès apparent, mais plutôt sur les progrès de l'Évangile sans cesse proclamés sous la conduite de l'Esprit-Saint. Le Seigneur en a besoin. De quoi Jésus a-t-il besoin dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai peut-être de particulier qui pourrait servir le témoignage, la mission de Christ ici, à Pessac, ou ailleurs, que sais-je? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je considère que le Seigneur n'a pas sa place? Est-ce que je considère qu'il y a des domaines dans ma vie où le Seigneur n'a pas besoin? Quelles sont finalement peut-être simplement les idoles dans ma vie qui m'empêchent d'être utile pour notre Dieu? Vaste question, je le sais, et chacun d'entre vous y répondra personnellement. Je sais, je vous pose plus de questions que je n'apporte de réponses ce matin. Mais cette méditation, je la terminerai par une réponse, pas la mienne, mais celle du Seigneur. Peut-être que vous êtes interloqué et vous vous dites, c'est vrai, le Seigneur a besoin de moi, en fait. Donc, je me dois de faire quelque chose, mais par où commencer? Comment faire? Le Seigneur, dans notre texte, dit à ces deux disciples-là qui vont chercher l'âne, si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Le Seigneur envoie, mais il donne aussi les moyens de réussir. On doit garder ça aussi, fermement dans notre cœur, dans tout ce que nous entreprenons. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a quelque chose de formidable. Souvent, on se concentre, nous, sur « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Très bien, c'est notre ordre de mission. Ok. Le Seigneur envoie, mais il rassure aussi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout est entre les mains et sous la souveraineté de notre Dieu. Allez, faites donc attention. Ok. Deuxième manière de nous rassurer, voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette petite ordre de mission entourée par deux choses. Je suis souverain sur toute chose, et moi qui suis souverain sur toute chose, je suis avec vous tous les jours. On parle souvent de croissance de l'Église, et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la mission, peut-être, et on en parlera, n'est pas forcément cette dimension numérique. Je pense que le Nouveau Testament parle, lui, plus de croissance de l'Évangile. Croissance et progression de la parole. Il nous montre avant tout comment l'Esprit-Saint suscite et soutient l'avance de la parole de Dieu selon ce qu'il a prévu. Elle se fraye un chemin. dans le monde et dans la vie de nos contemporains. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience de cette dimension-là, et Pierre, sans aucun doute, dans sa carrière qui est un petit peu plus longue que la mienne. Quelquefois, on fait l'expérience dans nos bureaux, quelqu'un qui vient sur un parking, quelqu'un qui frappe à la porte du bureau, moi ça m'est arrivé, et qui nous dit « Je sais pas, je me suis senti poussé à venir là, et je pense qu'il faut que je me fasse baptiser. » De but en blanc. Et je ne l'ai pas vu avant, je ne sais pas où il est passé, et là il m'explique « Ben voilà, ça fait longtemps que je cherche, je me pose des questions, et le Seigneur s'est révélé à moi de cette manière-là. » Et nous, on est témoins, finalement, de quelque chose. On recueille le fruit de quelque chose pour lequel on n'a pas fait grand-chose. Être en mission, et c'est ce que j'ai apprécié aussi lors de la visite hier et dans ce qu'on a discuté avec le conseil, être en mission, c'est aussi être capable d'accueillir ces fruits que le Seigneur envoie, simplement, et de les faire grandir et de pouvoir se réjouir de ce que le Seigneur fait dans la vie de nos contemporains, parfois envers et contre nous. Aussi est notre témoignage. La parole de Dieu, l'Évangile, je le crois encore, se fraye un chemin dans le monde. Le Seigneur a besoin de moi, il a besoin de nous. Il a besoin aussi que je réalise mon besoin de lui pour avancer. Je ne sais pas si ça marche, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Le Seigneur a besoin de moi, que je réalise mon besoin de lui pour avancer, pour croître. Si je crois dans ma connaissance de lui, alors il fera croître mon Église, ma communauté et mon témoignage. Moi, je me souviens toujours des premières communautés. J'essaie de les imaginer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver très bien. Mais il s'agissait de quelques croyants qui se réunissaient dans des maisons. On les idéalise souvent, hein. Mais à vue humaine, franchement, elles étaient insignifiantes. Leur structure était réduite. Elles n'étaient pas aussi nombreuses que nous ce matin, dans un beau bâtiment. Mais par l'Évangile, Dieu y ajoutait continuellement des hommes et des femmes. Exprimé autrement, Jésus-Christ poursuivait le programme qu'il avait annoncé dès le chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu. Il continuait de bâtir son Église. Et il continue encore aujourd'hui. Et chose miraculeuse, il m'associe à son œuvre. Un jour, vous savez, il a conduit dans sa sagesse un pasteur dans une réunion de jeunes à venir chercher l'âne que j'étais, par une parole qui a bouleversé ma vie, comme s'il avait dit à ce pasteur, « Toi, là, tu vas aller chercher ce jeune là-bas, tu sais, aux cheveux bleus, avec des t-shirts volontairement offensants, et s'il te demande pourquoi, tu te diras, le Seigneur en a besoin. » En quittant ce culte, j'espère que chacun et chacune d'entre vous et d'entre nous réalisera que le Seigneur, que cette Église, c'est-à-dire vous, hein, plus que les bâtiments, que le Seigneur a mis ensemble et continue à faire grandir, a besoin de lui. Que la croissance de nos communautés, de votre communauté, ne passera que par ce qui se produit dans nos cœurs, dans vos cœurs. Par sa parole, par son esprit, Dieu agit pour conduire des personnes dans son royaume, pour les faire naître de nouveau en tant que nouvelles créatures, pour les voir grandir, mûrir, porter du fruit en qualité de serviteur de Christ. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au début de la prédication. Jésus n'est pas là pour faire le héros, hein, mais faire la volonté du Père. Ça nous garde, nous aussi, dans cette humilité nécessaire. Se peut, c'est vrai, qu'on cherche, et c'est pas mal, hein, des signes de vie, de croissance dans nos églises, implication des membres, hein, activités, nouveaux arrivants, des finances saines, la taille, la beauté des bâtiments. Mais la seule croissance vraiment précieuse dans le plan de Dieu, c'est la vôtre. C'est la croissance de ceux qui croient en lui. Alors, pour un dernier mot et vous dire ce que je vous souhaite, c'est-à-dire que vous soyez une communauté qui continue à grandir, à croître et à témoigner. J'aimerais vous dire que finalement, votre programme est assez simple. 3 étapes. Prendre conscience de mon utilité, chacun personnellement dans le plan de Dieu. Le Seigneur a besoin de moi. Avoir conscience, confiance, non pas forcément en nous et en tout ce qu'on peut faire de magnifique, hein, mais en lui. Le Seigneur envoie mais il donne aussi les moyens de réussir. Et la troisième chose, c'était ces deux choses qui entouraient notre ordre de mission. Soyez dans la paix. Et j'étais heureux, je l'ai dit au conseil, je vous le dis aussi, de voir une église paisible. C'est pour moi peut-être un des plus beaux compliments qu'on peut lui faire. Des lieux où on a la paix dans notre société, et particulièrement parfois dans notre monde évangélique ou tout ça, c'est précieux. Soyez dans la paix. Le Seigneur vous envoie, hein. Vous avez encore beaucoup de travail, mais il vous rassure et il est avec vous aussi. Amen.